Je dois remercier aussi le Rav Gorenstein de nous accueillir dans son Beit HaMidrash. Et je vais vous parler d'un auteur que vous connaissez tous, qui s'appelle Manitou. Mais je vais vous parler, c'est des éléments qui se déchaînent contre nous. Je vais me concentrer surtout sur un concept qui était très courant chez Manitou, c'est Ivri Imotsa Yehudi, donc un hébreu d'origine juive. À ma connaissance, il faut interroger cette expression. Qu'est-ce qu'elle signifie très précisément ? Serait-ce prendre le concept hébreu au pied de la lettre et faire passer les connaissances juives acquises à l'aide des langues de la diaspora en connaissances hébraïques ? En d'autres termes, est-ce que cela voudrait dire penser, s'exprimer, écrire en hébreu ? Est-ce qu'être hébreu se réduit alors à l'acquisition d'un idiome supplémentaire, langue vernaculaire ou même langue de la sainteté? Être hébreu relèverait-il donc seulement d'un changement de statut linguistique sans faire bon marché de cette mutation, c'est-à-dire en tenant compte du fait qu'une langue est toujours plus qu'une langue, car elle véhicule une conception du monde, une tradition, un patrimoine? Quelle est donc la réserve de sens de cette expression ? Bien, à ma connaissance, Manitou n'a pas assez explicité ce concept. Ses disciples non plus, et forcé de constater l'obligation impérieuse de soumettre cette formule à l'analyse. Une chose est sûre, cette formule signifie, selon Manitou, que les mutations de l'identité juive eussent dû trouver leur point d'apaisement après le long périple diasporique, dans le retour au pays et ipso facto dans l'identité abrahamique, originelle, qualifiée d'hébraïque, selon la dénomination attribuée au premier patriarche, Avram à Ivri. Or, il n'en est rien, car être hébreu est à son tour soumis au questionnement dans la société israélienne. Si l'identité hébraïque forme, comme le conçoit Manitou, le noyau de l'israélité, elle ne se décline pas de manière uniforme. Donc voilà ma question. Ma question, c'est que Manitou pense, après avoir analysé et donner un parcours à son concept de Toladot et son concept d'historiosophie, il pense être arrivé à la fin du parcours en disant, voilà, moi ce que je propose au peuple juif, c'est de devenir hébreu d'origine juive. Or, dans la société israélienne, il y a un conflit, disons, où il y a des divergences de vues entre ce qu'ils appellent l'identité juive et l'identité israélienne. Alors, déjà, l'interprétation du Midrash qui explore l'adjectif qualificatif à Ivri, accolé à Abraham, dégage plusieurs strates de signification. Discussion entre Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia et Rabbanan, Le premier dit Ivri, parce que le monde entier se tenait sur une rive, Me'ever Echad, et lui sur l'autre rive, Me'ever Echad. Le second, Rabbi Nechemia, a dit parce qu'il était de la descendance de Ever. Et les rabbis disent parce qu'il venait de l'au-delà, Me'ever Hanar, et qu'il s'exprimait en langue hébraïque, Belachon Ivri. Fin de citation du Midrash, donc de Bereshit Rabba 42.8. Donc cette identité, Ivri, se décline selon quatre modalités. La première, la séparation. La deuxième, l'ascendance. Et la troisième, la localisation et l'idiome. On pourrait penser qu'il s'agit là de modalités singulières et par là même exclusives, à savoir l'extraction familiale, le lieu de naissance et le parler. Alors, je vais analyser brièvement ces différentes composantes. Abraham n'est ni un dieu, ni un demi-dieu. C'est le fils de Terach, un être de chair et de sang, un humain, et qui plus est, marchand d'idoles. C'est un travailleur immigré qui a expérimenté l'incondition d'exilé, un guer toshav. Il provient d'Ur en Chaldée et s'exprime en hébreu. Et le commentaire de Rabbi Yehuda les subordonne au monothéisme naissant. Or, nous savons qu'Abraham, en tant qu'individu, et Israël en tant que collectivité ont transmis l'idée monothéiste et l'ont versée au patrimoine de l'humanité, si bien que les modalités singulières qui semblaient faire obstacle ont été mises au service de l'universalité de cette idée et partant ont reçu elles-mêmes une coloration universelle. Pour autant, cela n'a pas empêché que cette notion d'ivriyut fut exploité vers la fin des années 30 du siècle dernier dans un sens tout à fait opposé par le mouvement qu'on a appelé le mouvement des Knaanim, des Cananéens, dont le chef de file s'appelait Yonatan Ratosh, 1908-1981. En fait, Yonatan Ratosh est né en Pologne sous le nom d'Uriel Halperin, a grandi à Varsovie et s'est installé avec sa famille à Odessa pour échapper aux tourments de la Première Guerre mondiale avant de monter en Israël à l'âge de 11 ans. Il entreprend alors ses études secondaires au Gymnasia Rehavia à Jérusalem et c'est à la Gymnasia Herzliya de Tel Aviv qu'il obtient son baccalauréat. Désormais, il prend un nom de plume qui s'appelle et s'appelle Uriel Shelah. Et après une année d'études de droit à l'université hébraïque, il se rend à Paris et se consacre à la linguistique, section des langues anciennes. Il retourne au pays et se présente comme Yonatan Ratosh. Le prénom, en tant que clin d'œil à la rébellion du fils contre l'autorité du père, le roi Shaoul, et le nom patronymique reprend une expression talmudique qui indique un émigré qui a quitté son pays volontairement en abandonnant Natash, c'est bien. Donc, nanti de ce nom, il fonde en 1948 le mouvement des jeunes hébreux, Ha'ivrim Ha'tzeirim, que ses adversaires appellent par dérision les Cananéens. C'est un mouvement idéologique et culturel dont un des objectifs visait à établir des liens étroits et permanents entre les peuples qui ont vécu en Canaan au second siècle avant l'ère chrétienne et le peuple hébreu du XXe siècle de retour au pays. Donc, Il insiste sur l'identité hébraïque du mouvement, dont les membres étaient des natifs du pays, ayant l'hébreu comme langue maternelle. Mais l'insistance sur l'identité hébraïque du mouvement ne devait pas masquer l'autre objectif tout aussi important, affirmant que la nouvelle nation ne servirait pas, ou ne servira pas, pardon, de patrie pour le peuple juif, mais sera une nation qui se fondera dans la région. La fonction du mouvement consistera à créer une culture ancienne nouvelle, s'adossant, pardon, à l'héritage pré-judaïque qui était commun au peuple de la région. C'est peut-être pour cette raison que Ratoche a été très attentif à Genèse 14-13, mentionnant Abraham l'hébreu, c'est-à-dire l'individu qui venait de l'au-delà du fleuve, d'Ur en Chaldée, avec sa propre culture. En conséquence, il négligeait le verset des Chroniques qui identifiait Abraham et Avraham. Donc, un Chronique, premier livre des Chroniques, chapitre 1, verset 27. Ainsi lu par le Talmud, au début, il était père d'Aram, Av le Aram, et ensuite, père de l'humanité entière, Av le Chol Aolam Kulo. Fin de citation. À savoir, en tentant de faire adopter l'idée monothéiste par les habitants de la région et partant par le monde entier. C'est donc avec lui qu'a véritablement commencé l'histoire biblique. Mais Ratoche enjambe l'histoire biblique pour explorer et adopter la période pré-biblique, celle des peuples de la région, si bien qu'il préconise que la nation en voie de formation devra rompre toutes les amarres avec le judaïsme et le peuple juif, et il motive cette rupture, je le cite, « car le judaïsme est une religion et en tant que telle n'a pas d'assise territoriale, puisque l'on peut être juif dans n'importe quelle partie du monde, comme on peut être chrétien dans n'importe où dans le monde. Afin de créer une nation hébraïque ayant une identité propre, il prônait la rupture totale avec la tradition et le judaïsme rabbinique jugé obsolète. Pour cela, eh bien, il exhortait à s'intégrer dans la région et à reconstituer le croissant fertile, berceau de la civilisation, dont il fallait bouter auparavant les puissances coloniales, l'Angleterre et la France, condition sine qua non pour une résurrection nationale de ses peuples et pays. C'est pourquoi il recrutait les jeunes Hébreux dans les rangs de l'aile combattante du mouvement révisionniste, le Lehi, dont il faisait partie. Ratoche était fermement persuadé qu'une fois les puissances coloniales hors circuit, la culture hébraïque, telle qu'il l'entendait, pourrait s'imposer d'elle-même à ses peuples. Bien entendu, il s'est aliéné une grande partie de la classe politique du nouveau Yishuv en condamnant le sionisme, ainsi qu'une partie du peuple juif, et en militant pour une rupture radicale avec la tradition juive ancestrale. Ce mouvement n'a pas directement influencé la vie politique israélienne, quoique l'idée de post-sionisme y affleure, et en conséquence, elle a ainsi préludé au projet d'abandon de l'État-nation en vue de le troquer pour un État de tous ses citoyens, et même l'abandon de la loi du retour, ce qui est une version remise au goût du jour, découpée sur le patron de l'idéologie cananéenne. En revanche, sur le plan culturel local, sur le plan Pnim, Ivri, il a laissé une empreinte indélébile sur l'art, la poésie, la littérature. Ses chefs étaient presque tous des publicistes et modelaient de ce fait l'esprit des générations de lecteurs. Et je vais vous donner ici à voir juste voilà, vous faites circuler, ouais. S'il vous plaît.
Merci.
C'est ainsi que Nimrod est devenu le symbole par excellence de cette mouvance. Le sculpteur Yitzhak Danziger ne le représente pas comme un Gibor Tzaïd, un puissant ravisseur. Et Rachid commente, il ravissait la pensée des créatures par son discours et les poussait à se rebeller contre Dieu. Mais comme un jeune chasseur, pré-biblique, bien bâti, entièrement nu, une épée plaquée à son abdomen droit et un ibis sur son épaule gauche, et Arel, incirconcis. Donc, à l'instar de l'esprit du temps ou de l'esprit du siècle des nationalismes, qui puisait dans le mythe pour exalter l'âme de la nation et inciter leurs citoyens à s'identifier à ses héros, la poésie de Ratosh et de son cercle est une poésie mythique, érotique, qui se nourrit de mythes cananéens, et elle a eu peu d'impact existentiel sur la société israélienne, parce que se prosterner devant les divinités de Canaan, Baal et Ashtoreth, et s'occuper de manière obsessionnelle du panthéon polythéiste de l'ancien Canaan, afin de réélaborer une hébraïté pré-judaïque, semblait une vaine entreprise. Toutefois, la poésie de Ratosh attirait des adeptes par la virtuosité de ses allitérations, par sa fibre érotique et par l'exploration des strates profondes de la langue hébraïque afin de dégager, à partir de son ancienneté, sa force germinale. Au point que, dans cette génération, il y a eu énormément de jeunes Israéliens qui se sont appelés Nimrod. Alors que aucun juif n'a eu l'idée de donner ce nom à un de ses garçons quand il était en diaspora. Voilà donc, j'ai un peu présenté ce mouvement qui s'appelle à Ivrim, à Tseirim ou bien à Knaanim, d'accord, qui, si on doit se rappeler d'un trait en tout cas de ce mouvement, rompre avec la tradition juive et le peuple juif et essayer de remonter jusqu'à la période pré-biblique pour devenir très exactement des Cananéens, c'est-à-dire pour ressembler à Avram à Ivri et non pas à Avraham à Ivri. Et alors, c'était comme ça jusqu'à jusqu'à environ 2008, où est paru un livre qui est un livre d'un professeur très respectable de l'Université hébraïque de Jérusalem qui s'appelle Yehuda Libes. Libes est un professeur de mystique juive et qui a consacré une étude intitulée, je cite, « Le mythe de la restauration de Dieu, la Kabbale du Zohar et la poésie de Ratosh ». D'accord. Mitos Tikkun HaElohut, Kabbalat HaZohar VeShirat Ratosh. Alors, il faut replacer cette étude dans le contexte, comme le fait d'ailleurs Yehuda Libes, avant d'en dégager les idées forces. Ratosh et ses contemporains, notamment le poète Uri Tzvi Greenberg, qui n'était pas cananéen, réintroduisent le mythe dans l'histoire d'Israël de la fin du XIXe siècle et du premier tiers du XXe siècle, laquelle a été troublée, comme tous les peuples civilisés, par le mot de Nietzsche, « Dieu est mort ». Il tente, chacun à sa manière, d'élaborer un mythe qui compense la mort de Dieu et qui s'inscrive dans le sillage des mythes fondateurs de l'histoire juive ou de l'histoire israélienne, sauf que les mythes élaborés n'ont pas eu l'impact espéré sur les contemporains, à l'instar de celui, par exemple, de Shabtai Tzvi. Toutefois, nous savons, nous, que le mythe donne à penser. Il restitue la richesse d'un passé et pointe vers un avenir. Il raconte ce qui est inénarrable. Il fait un récit de ce qui est sans histoire. Et, comme le dit Ricoeur, le mythos comporte un ou plusieurs logos qu'il importe d'exhumer et de transformer en éthos. La transition à une forme d'existence telle que l'a imaginée Ratosh n'a heureusement pas eu lieu. Sa poésie est demeurée le lot d'un groupe de happy few et ne s'est pas incarnée. Mais nul doute que ce mouvement a laissé une empreinte souterraine dans la culture israélienne. Et alors, Libes va essayer justement de recomposer le mythe de, comme il l'appelle, Tikkun HaElohut, à partir, ou en tout cas, à travers la poésie de Ratosh. Et pour cela, eh bien, il entreprend une étude comparative entre une partie du Zohar qui s'appelle Idera Rabba, Grande Assemblée, et le poème programmatique de Ratosh qui s'appelle Haolchim Bahosher, les somnambules. Et donc, la Idera raconte le rassemblement de fidèles disciples autour de leur maître Rabbi Shimon Bar Yochai, rassemblement rituel, mais dont l'objectif est une restauration religieuse, en particulier la restauration du divin lui-même, Tikkun HaElohut, lequel relève de l'extrême urgence. Je cite donc Yehuda Libes, au début de l'Idera, Dieu est décrit par sa modalité supérieure Longanim, Arich Anpin, ou Atika Kadisha, le saint vieillard, comme il était dénommé avant la restauration, un dieu transcendant, impossible à saisir, alors qu'il est recouvert, là, d'une peau interminable, cet état étant évalué comme un défaut, une carence, une imperfection dans l'être du dieu supérieur qui se répercute sur les mondes inférieurs, de sorte que, selon un proverbe politique en usage, un peuple ne peut bénéficier d'une restauration que si le roi lui-même en tire parti le premier. Fin de citation. C'était là l'objectif des participants à l'Idera Rabba, lesquels entendaient effectuer le tikkun par la voie du mythe. Et pour ce faire, ils dotent Dieu d'une forme anthropomorphique, ils découvrent et en quelque sorte même crée les éléments qui composent son visage, comme son crâne, son front, ses yeux, ses cheveux et sa barbe, en insistant sur les 13 boucles appelées tikkunim. L'autre imperfection de base consistait en son célibat. Et c'est cet état qui a provoqué la destruction des temples, le Khurban, que l'Idra s'emploie à restaurer. De sorte que la divinité restaurée s'appuie sur un équilibre entre les traits masculins et féminins, équilibre dont le point d'orgue est l'union sexuelle. Fin de citation de Yehuda Libes. À sa manière, Ratoche, dans son poème, exploite la modalité mythologique de l'hébreu dans un langage qui rappelle le tikkun ha-elohut, la restauration de Dieu. Et je vous ai donné un texte. Ils l'ont ?
Non. Ouais. Excusez-moi, je ne l'ai pas imprimé. Je l'ai reçu par mail.
Ah, vous l'avez reçu par mail. Donc, alors, moi, je vais vous citer ça. Si vous l'avez en hébreu, c'est bien.
Pardonnez-moi, j'ai peut-être mal suivi. C'était le célibat de qui ?
Pardon ?
Son célibat, à un moment
de... Ah, le célibat de Dieu. C'est-à-dire, Dieu devait justement être les traits masculins et féminins parce que il devait s'appuyer, en s'appuyant sur un équilibre entre les traits masculins et féminins, eh bien, il devait restaurer l'union sexuelle dans la divinité. Alors voilà ce que dit Ratoche dans son poème. Lui, Dieu de ma vie, c'est ma traduction, mais je vais vous le lire ensuite, ça en hébreu. C'est la voix de mon Dieu, dressée, contemplant le brouillard, que, debout, nous réveillerons, que, debout, nous ferons vivre, dont nous saurons prononcer le nom, à pleine bouche, en sanctifiant, avec une voix forte, et par groupe, avec des sacrifices sanglants du fond du cœur, auxquels nous rendrons ses frères, son héroïsme et sa force, auxquels nous rendrons ses femmes, et tous ses enfants, fils des divinités, Dieu fort et puissant, Dieu homme de guerre, lève-toi Dieu, que tes ennemis se dispersent et que tes adversaires fuient de devant ta face. Voilà une partie en tout cas du poème programmatoire de Ratoche, mais je vais vous lire ça en hébreu et vous allez être attentif en tout cas à un mot qui va être redondant dans ce poème et sur lequel va s'appuyer à la fois l'analyse de Ratoche et à la fois celle de Libes. Hu el hay ze kol eli nitzav tsofe ba'arafel asher nakuma venairo asher nakuma unhayo asher neda batte shemo befe male beitkadesh וכל גדול ובהתגודד, ובקורבן דמים מקרב לב, אשר נשיב לו את אחיו או את אחיו, וגבורתו ואת עוניו, ספוכס עוני, אשר נשיב לו נשותיו, וכל בניו בני אלים, ואת אביהו אל הים, שכן אפיק תהומותים, והוא עומד צופה לאות, צופל אלוהים חיים, עולים מארץ ומאוב, ביקרו בכוח ובכל, השם עיזוז וגיבור, השם איש מלחמה, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. ופה, ליבס קונטינו, עשיתי אנקור, דו טרוא, vers de ce poème, mais Ashpot Yakum Evion, Zehadal me Afrotav, Veitnaer Komo Shimshon, Asher Tsamhu Mahlafotav, Yohaz Beamude Olam, Hu Olamo Asher Tsihe, Umekime me Afar Dal, me Ashpot Yarim Evion. Donc, quel est ce chef de file des Cananéens qui déclare haut et fort qu'il convient de rompre avec le judaïsme obscurantiste et qui cite néanmoins, sans référence à la fin de l'extrait de son poème analysé par Libès, deux segments de versets, psaume 24-8 et nombre 10-25, j'y reviendrai. Donc j'y reviendrai à ces deux segments de versets. En tout cas, l'analyse de Libès est la suivante. Il rappelle que l'énonciation du nom explicite est un des signes patents du monde qui vient, du monde futur restauré comme l'établit le Talmud, mais, précise-t-il, à la suite de la description de la restauration de Dieu dans le poème de Ratoche, n'a d'équivalent que dans le Zohar et la Kabbale. Relève le miséreux de sa fange, Nashpot Yakum Evion, c'est le pauvre de la poussière, s'ébroue comme Shimshon, dont les cheveux ont repoussé, s'agrippe au pilier du monde, son monde qu'il a asséché, et redresse l'indigent de la poussière, de la fange, il retire le misérable. Donc le Dieu qui se redresse de la poussière et que le kabbaliste aide à se redresser est une image, commente Libès, très fréquente dans la Kabbale. Là, cette métaphore se rapporte au domaine inférieur de la divinité appelée présence, Shrina et parfois Dal. À l'approche de la rédemption, elle s'ébroue de la poussière de l'exil et le Zohar emploie les mêmes versets cités dans son poème par Ratosh, c'est-à-dire 1 Samuel 2:8 et Isaïe 52:2, et ajoute Libès, le kabbaliste de chair et de sang prête main forte à Dieu lors du rituel messianique appelé la restauration de minuit, Tikkun Hatzot, qui commence en s'asseyant dans la poussière et se poursuit lorsque le kabbaliste s'en ébroue. Même le symbole de la repousse des cheveux chez Dieu, au moment de la restauration, y est présent déjà bien avant Ratosh. La comparaison avec Samson ne s'y trouve certes pas explicitement, mais le fait que l'Idéra relie la restauration divine à la restauration du Nazir, de quiconque fait vœu d'abstinence et prend place dans la péricope shabbatique Nassau qui traite de ce sujet, dont Shimshon est l'exemple type, est un signe indéniable. Donc Libès va présenter un autre parallélisme entre le Zohar et Ratosh, lequel ne se trouve pas dans l'Idéra et n'est pas rattaché au mythe de la restauration divine, mais à la restauration du mythe en général et à sa vitalisation. Dans un de ses articles, publié dans le numéro 1 de la revue Aleph, novembre 1948, et intitulé « Asher Eloheinu »,« Asher notre Dieu », Ratosh interprète le verset suivant « Hachem, mon Dieu, que ton nom est glorieux sur toute la terre, toi dont Asher Tena Hodecha Alashamayim, Asher Tena Hodecha Alashamayim, toi dont l'éclat s'étend sur le ciel. » Il se livre alors à une analyse de la particule syntaxique de relation Asher, que, dont, qui n'a selon lui aucune raison d'être là, sauf si on la détourne de sa fonction syntaxique et qu'on lui attribue le nom de la divinité ou l'attribut divin dont la modalité féminine, tenez-vous bien, est Ashera. Donc voilà ce que fait à la fois Ratosh et ce que fait Libès pour nous dire finalement que nous avons un rapport, et non seulement un rapport, mais nous avons un lien avec l'histoire pré-biblique et pré-abrahamique dont les divinités s'appelaient Asher et Asherah, donc Astarté et donc le reste. C'est quand même très très fort et quand j'ai découvert ce texte, je me suis posé tout de suite la question, est-ce que Manitou connaissait ce texte de Ratoche et l'interprétation de Libès? Je ne crois pas qu'il a connu l'interprétation de Libès parce que Manitou, je pense, est décédé avant 2008. Il n'a pas connu l'interprétation de Libès, mais je sais, parce que j'ai mené une petite enquête, je sais qu'il a rencontré un des lieutenants de Ratoche et qu'il a eu une très très longue discussion avec lui. Mais je ne sais pas ce qui est sorti de là. En tout cas, j'étais très extrêmement frappé, en tout cas, par cette interprétation de Asher, qui est le nom d'une divinité et non plus une particule syntaxique, et c'est le masculin, en tout cas, de cette divinité qui s'appelle Asherah. Donc, la première déesse, je rappelle qu'Asherah est la première déesse qui a été découverte dans les fouilles de Rash Shamra Ugarit et que l'on discerne dans Asher, un des attributs du nom ou le nom d'un autre dieu. Et Libès trouve une interprétation semblable dans le Zohar, deuxième partie 49b, et c'est déjà cité en tout cas chez Ratoche, mais lui il le cite du Zohar. Toi dont l'éclat s'étend sur le ciel, Asher tena hodcha al shamayim, le texte aurait dû porter, dit Libès, non pas Asher tena, mais Asher natata hodcha, non pas à l'impératif, mais au passé. Que signifie donc Asher tena? C'est le sens secret ou ultime du fleuve le plus profond, et David, dans son psautier, a élevé une prière pour l'épanchement de ses eaux sur le ciel, et c'est le sens d'Asher, comme dans l'expression Ehyé, Asher, Ehyé. Devant la difficulté d'expliciter la particule syntaxique Asher, Ratoche et le Zohar en font un substantif qui décrit la puissance de Dieu. Alors, est-ce que c'est la vérité oraculaire de la langue? Peut-être. Mais pourquoi d'aucuns l'ont-ils détourné vers des régions où souffle l'esprit païen? Il n'est besoin que de considérer comment un de ses disciples, Moshe Dor, et c'était le deuxième texte que je vous ai donné, que j'ai trouvé parce que dans le journal, dans le quotidien à Haaretz, qui est lu par, disons, ce qu'on appelle l'élite de la société israélienne, il n'y a pas une année ou une demi-année où on ne trouve pas, en tout cas, un article sur Ratoche ou sur ses disciples. Et là, c'est un de ses disciples qui s'appelait Moshe Dor, et voilà ce qu'il a écrit. Je vous traduis même pas parce que vous allez voir. Shikor, shikor, avinu ha'orem. Rechuma, rechuma, imenu ha'gorem. Aval at, me'amir, me'amir, ve'achoresh, so'ara, so'ara, ashtoret. Donc, je traduis pour ceux qui n'auraient pas, ne connaissent pas l'hébreu. Ivre, ivre, notre père le pain. Clémente, clémente, notre mère la grange. Mais toi, depuis la cime jusqu'à la racine, fougueuse, fougueuse, Astarté. Donc on constate que ce concept d'hébraïté est radioactif. Car tant que l'on maintient être hébreu au niveau linguistique, on peut encore trouver des chemins de traverse entre Hatoch et Manitou. Mais si celui-ci rattachait l'hébreu par toutes les fibres de son être à son socle, même si Manitou rattachait l'hébreu par toutes les fibres de son être à son socle judaïsme, alors que celui-là, Hatoch, entendait l'en détacher radicalement et le conduire en enjambant à rebours toute l'histoire juive vers le lointain passé du paganisme. Est-ce que je surinterprète en tentant une telle comparaison? Manitou connaissait-il les idées de Yonatan Hatoch qui ont élu domicile après métamorphose dans la culture israélienne, post-sionisme, rejet du judaïsme rabbinique et de ses rituels, par exemple de la circoncision, rupture avec la diaspora, plus précisément dans le concept d'hébraïté, même si elles ne sont revendiquées que par une minorité? Bien, il semble que oui. Je me rappelle un jour qu'il abordait lors d'une conférence à Genève ce concept de Ivrim Motsa Yehudi. Je lui ai dit que ça me rappelait justement Hatoch, et la seule réponse que j'ai eue de Manitou: comment connais-tu Hatoch? Voilà. Qu'aurait-il pensé de cette étude de Yehuda Libes, comparant un poème de Hatoch à l'ouverture de Lidera Rabba, un passage d'un de ses articles, Asher Elohenu, à Zohar, 2 Zohar 49b, de la conclusion de son analyse rejetant l'accusation de la poésie de Hatoch comme laïque et encore moins comme païenne? Elle tenterait de restaurer le divin par l'emploi du langage du mythe, un langage que Libes n'hésite pas à qualifier de religieux. Voilà ce que je voulais quand même dire, et lorsque je dis cela, c'est pas une critique que j'adresse à Manitou, c'est mon effroi devant ce concept d'hébraïté, même si, et je le répète, Manitou insistait sur le fait qu'il est ivri mimotsa yehudi, et même si en Israël déjà s'était levé des personnes comme Baruch Kurzweil et d'autres qui ont croisé la plume, et pas seulement la plume, avec Yonatan Hatoch et avec ses disciples. Je ne vais pas en tout cas vous donner la lecture de cette deuxième partie de ce supplément d'enquête où il y a ce conflit entre Hatoch et Kurzweil, qui lui dit, eh bien, si Hatoch a pu développer une conception telle que celle qu'il a mis dans son programme, dans son poème programmatique, eh bien c'est parce que le sionisme lui a donné déjà le fait de dire qu'il fallait changer la configuration du corps de l'Israélien, l'Israélien bien bâti, qui travaille la terre et qui n'est pas celui qui est chétif et qui a des lunettes et qui est dans le Beth Midrash et qui, lui, devait être justement, qui a été d'ailleurs très, très dénigré par les premiers, par des gens comme qui venaient de ce Beth Midrash, comme par exemple Brenner, comme Gnessin et comme Tchernikovski et d'autres. Donc, c'est, il dit qu'il y a, il y a eu dans le sionisme, il y a eu des possibilités de développer ce qu'a développé Ratosh, et c'est pourquoi on en est arrivé là. Et il a écrit un grand article qui s'appelle Mahuta um Korotea shel Tnuat Hatzairim Ha'ivrim, donc l'essence et les sources du mouvement des jeunes hébreux, où il développe justement cela. Mais comme je ne veux pas parler plus que cela, j'attends en tout cas d'avoir un échange avec vous sur ce que vous venez d'entendre. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup, monsieur Valois. Alors, on va passer aux questions. Qui va se lancer en premier? Monsieur Rivlin.